Yes.
Now, how about showing them what I mean with, do you know what it means?
You want
to
do that,
Miss Orley?
Yeah, okay. Well, let's chirp it first, huh?
Do you know what it means?
Jazz Story. Luxie Bright vous raconte le jazz sous toutes ses formes. En novembre et décembre, écoutez nos 8 épisodes sur le free jazz, révolution musicale et esthétique. Le free jazz est un mouvement artistique aussi audacieux qu'il est hétérogène. Car qu'est-ce que le free, si ce n'est l'affirmation ultime d'un nouvel affranchissement musical, le rejet de formalisme normatif et de cloisons structurelles, afin de laisser place à une expressivité débridée. À chacun sa propre expression, à chacun sa propre liberté. Cette philosophie émancipatrice a bouleversé les codes musicaux du XXe siècle et ses répercussions s'étendent bien au-delà du monde du jazz. Dans cette série sonore, vous pourrez découvrir une musique unique et exigeante, retracée à travers une sélection d'albums qui ont marqué son histoire. Épisode 5, Spiritual Unity.
Ce saxophone est instantanément reconnaissable. C'est celui d'Albert Eiler. Et l'on vient d'écouter le morceau « Ghosts » qui ouvre l'album « Spiritual Unity ». Lorsqu'on l'entend jouer pour la première fois, on est immédiatement frappé par les sons atypiques qu'il produit. Les bruits cinglants et sauvages, tantôt grinçants, tantôt éruptifs. Son jeu est d'une intensité féroce, d'une violence criarde, qu'il encourageait par l'utilisation d'anches très dures. Eiler aimait explorer les propriétés physiques de son instrument, toujours dans une recherche de déconstruction du son par des variations extrêmes de timbres et de registres et un vibrato hypertrophié. Lorsqu'il improvise, il ne joue pas vraiment de notes, ce qui rend son solo impossible à transcrire, mais plutôt des sortes de cascades sonores sans hauteur ni timbre fixe. Le morceau « Ghosts », dont le thème évoque une sorte de berceuse, illustre également la sensibilité d'Eiler pour la mélodie simple. En plus de ses propres compositions, il aimait reprendre des thèmes simples et conventionnels, des hymnes gospel et même des standards de jazz, qu'il transformait, voire sublimait, par son style unique, en les imprégnant d'une beauté pathétique et d'une puissance viscérale.
Cleveland, Ohio, July 13th, 1936. And my father, he played saxophone, violin, and a singer. And he wasn't very popular, like all over the world, but he was just local. He was local. So therefore, when I was born, he wanted me to be known all over the world, see? know, when I was 8 years old, I was called a child prodigy at that time in Cleveland. I was called a child prodigy. And I played at a place where it was like a number of talented kids that were playing there, but I won the first prize. And at the age of 11 years old, I started Benny Miller's Academy. My father could teach me no more. I used to practice, like, we would play 6 hours, Orleans, yeah. We'd play, say, like 6 hours, then at the end of that, I would practice at night hard. I would play, the scale, not per note, but I would just get one sound, and I'd play diminished and all kind of different things on the instrument to familiarize myself, hoping to be a great artist one day, but I was nothing then. Cecil Taylor. I like Cecil Taylor a lot, but he's just too hard. I like smooth myself. I like my smooth, but he's like a very great artist. I had played with him a while, so I left there going back to the States, and that's when I started playing with Cecil at the Take Three. We played, and Eric Dolphy and Coltrane used to come in here. Sonny Murray, Jimmy Lyons, Henry Grimes, and myself and Cecil, you know, we had it beautiful. And Eric would come in to listen with Coltrane after they finished at the Village Gate, because they knew it was some new music that was happening that was like very strange. They couldn't understand it, but they could feel it.
C'était donc sa version du fameux standard Summertime, extrait de son premier album My Name is Albert Eiler de 1963, enregistré à Copenhague avec notamment le grand bassiste danois Niels Henning Ørsted Petersen. On écoute désormais le deuxième morceau de Spiritual Unity, The Wizard. Thank you.
Thank you.
Spiritual Unity naît le 10 juillet 1964, lors de la toute première session d'enregistrement du label new-yorkais ESP. Lors de sa sortie, Eyler a déjà plusieurs enregistrements à son nom, mais c'est bien cet album qui le positionne comme figure majeure du mouvement free. Pour cause, il y est associé à deux musiciens qui comprennent son approche esthétique et complimentent parfaitement son jeu. Sonny Murray à la batterie et Gary Peacock à la contrebasse. Ensemble, ils produisent une musique qui est radicalement différente de ce qui se faisait à l'époque et accorde une nouvelle dimension à la notion de liberté. L'émancipation d'Eyler dans ses explorations sonores trouve une contrepartie parfaite dans la liberté rythmique totale du duo basse-batterie. Pour paraphraser le critique Eckhard Yost, là où Eyler rejette la note fixe, Murray et Peacock rejettent la pulsation. Jamais, tout au long de l'album, pourtant d'une féroce intensité rythmique, peut-on réellement discerner un tempo ou une mesure. Il suffit d'essayer de claquer le tempo des doigts pour s'en rendre compte. C'est impossible. Alors que si l'on compare à un passage d'un album comme Free Jazz, que l'on a entendu dans l'épisode précédent, ici, la section rythmique crée plutôt une sorte de tapisserie sonore, animée par le jeu ondoyant et pétillant de Murray, et jalonnée par les danses et percussives acrobaties de Peacock sur sa contrebasse. Toutes les contraintes sur le jeu du saxophoniste sont effacées, et libre cours est donné à son expressivité idiosyncratique. Il improvise de manière brute et débridée, sans réel repère mélodique ou harmonique, même s'il lui arrive, comme sur Wizard, de citer subtilement le thème d'ouverture. Mais cette liberté totale, cette malléabilité, permet aux musiciens de communiquer et d'échanger sur un niveau plus fondamental, primitif, émotif. Ils réagissent aux nuances subtiles dans le jeu de l'autre, aux variations dynamiques d'intensité et de son, et se soufflent des idées sur lesquelles rebondir. Eyler dira lui-même de l'album : nous ne jouions pas, nous nous écoutions.
The reason I'm talking so much about Peacock because he's like the best bass player that I ever met. When we get together, we just play. We don't even have to talk about it. You know, the other musicians, you have to talk about it some, you know, but we just play, you know. Thank you.
Thank you.
vient d'entendre Spirits, le troisième morceau de l'album. On croirait en effet entendre des sons venus d'un autre monde. Spirits, Wizard, Ghosts. Les titres des morceaux touchent tous au surnaturel. La conscience spirituelle d'Hyler informait toute sa conception de la musique, qui pour lui représentait une perpétuelle quête de la transcendance. L'on conçoit alors un peu mieux son esthétique sous le prisme d'une forme d'extase religieuse, ses mélodies simples devenant des sortes de cantiques suivies de glossolalies improvisées. Sur la couverture arrière de l'album est imprimé en grand un symbole gnostique en Y, avec les trois visages du trio dans les espaces formés par les trois bras. Dessous, il est écrit que le symbole prédate l'histoire écrite et représente l'esprit ascendant de l'homme. Une représentation aussi de la Sainte Trinité. En évoquant un jour deux de ses contemporains et amis, Hyler dira « Coltrane était le père, Pharaoh le fils, et moi, je suis le Saint-Esprit. » Cette dimension spirituelle était aussi au cœur de la musique de John Coltrane, surtout dans sa période tardive après son album légendaire « A Love Supreme » de 1965. Coltrane était très touché par la musique d'Hyler, et l'influence du son de ce dernier est tout à fait identifiable sur des albums comme Meditations, dont le morceau d'ouverture s'intitule d'ailleurs The Father, The Son, and the Holy Ghost. Coltrane était plus qu'un ami pour Albert Ayer. Il était en quelque sorte son mentor. Il l'a aussi soutenu financièrement pendant de nombreuses années. Lorsque Coltrane meurt en 1967, Ayer jouera à son enterrement, aux côtés de nombreuses autres grandes figures du jazz.
And then she said, I want he, his last request was for Arnie Coleman and for you to play at his funeral. I thought, I said, How could I do that? How could I play crying?
Albert Ayer suivra son mentor à peine 3 ans plus tard. Il disparaît le 5 novembre 1970 et son corps est retrouvé le 25 dans l'East River de New York. Si très vite, des rumeurs de meurtre commencent à circuler, l'enquête conclut qu'il s'agit d'un suicide. Ceux qui l'ont connu pendant ces dernières années décrivent un homme vivant dans une situation très précaire, en proie à des épisodes de folie et de dépression profonde. Tout au long de sa vie, il aura peiné à trouver son public et ainsi vivre de son art. « Si les gens ne l'aiment pas maintenant, ils l'aimeront », dira-t-il. Décédé à l'âge de 34 ans, il ne vivra malheureusement pas assez longtemps pour voir cette prédiction se réaliser.
Thank you.
Jazz Story. Luxi Bright vous raconte le jazz sous toutes ses formes. En novembre et décembre, écoutez nos 8 épisodes sur le Free Jazz, révolution musicale et esthétique, les lundis, jeudis et dimanches à 17h.